portraits de femmes de notre matrimoine, une nouvelle série donc 2022-2023 sur les femmes du matrimoine de tous les continents par Jacqueline Graff, présidente de Femmes Solidaires. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes au XIIe siècle en Europe, avec une incursion en Asie, donc vous le constaterez dans un instant, avec le portrait d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, fille aînée de Guillaume X, duc d'Aquitaine et de Poitiers, et qui est née vers 1120-1122. Elle eut une éducation soignée d'une femme noble à la cour d'Aquitaine, l'une des plus raffinées du XIIe siècle, où rayonne la langue occitane. Et elle a appris le latin, la musique, la littérature, mais aussi l'équitation et la chasse. Lorsqu'en 1137, encore adolescente et héritière du duché d'Aquitaine et du comté de Poitou à la mort de son frère Guillaume, Aliénor est mariée à Louis le Jeune, futur Louis VII, roi de France, elle quitte avec tristesse cette brillante cour. Le roi de France devint duc d'Aquitaine par ce mariage, mais le duché n'étant pas rattaché à la couronne, Aliénor en resta la duchesse. Elle découvre alors une cour morose et grise et entreprend d'y introduire de nouvelles habitudes. Organisant jeux et tournois, elle fait venir des troubadours d'Aquitaine, des étoffes d'Italie et impose la richesse de la culture occitane. Elle fut critiquée pour cette conduite libre et ses goûts luxueux, alors que le roi, son époux, qui se destinait à la religion, est un homme austère sous l'influence de l'abbé Sugère, son conseiller politique. En 1147, 2 ans après la naissance de sa première fille, elle accompagne Louis VII qui participe à la deuxième croisade après avoir confié la régence de son royaume à l'abbé Sugère. Alors un mot sur les croisades, leur raison d'être, qu'est-ce que c'est ? Les croisades, il y en eut 8, sont des expéditions militaires, la manifestation de l'expansion extérieure de la chrétienté dirigée contre les musulmans, les solutions militaires paraissant plus faciles que les solutions pacifiques pour porter secours aux chrétiens de l'Orient, pour reprendre aux musulmans l'édifice religieux chrétien le plus important de Jérusalem, le Saint-Sépulcre. C'est aussi, sous l'impulsion de la papauté, la quête de la Terre Sainte, de la Jérusalem céleste, dite la Ville Sainte. Pour les convaincre, l'Église montra aux chrétiens européens que cette image idéale, c'est-à-dire irréelle, de la Ville céleste, était incarnée par la Jérusalem terrestre, bien réelle celle-là. Il fallait la délivrer. Cette entreprise était donc vécue par les croisés comme un pèlerinage guerrier dont on pouvait tout attendre, l'aventure, la richesse et, selon l'Église, le salut éternel. Toute chose exaltante pour des chrétiens occidentaux qui ne parvenaient pas à trouver chez eux, sur leur terre, le sens de leur destinée collective et individuelle. La deuxième croisade menée par le français Louis VII et l'allemand Conrad III de Hohenstaufen est un échec calamiteux, attisant les haines nationalistes entre eux, qui vont durer très longtemps. Elle assiège en vain Damas, en Turquie, et ne délivre pas Édesse, aujourd'hui Urfa, toujours en Turquie. Mais la découverte de l'Orient fascine Aliénor, tandis qu'elle rebute Louis VII. En 1148, la croisade séjourne à Antioche, aujourd'hui Antakya, en Turquie, où les époux sont accueillis par l'oncle d'Aliénor, Raymond de Poitiers, prince d'Antioche. Des bruits courent alors sur les véritables relations entre la nièce et l'oncle, entraînant une rupture entre les époux. Ils reviennent séparément en bateau jusqu'en Italie. Aliénor rejoint Louis VII en Calabre. Ils remontent ensemble vers la France. Le pape réussit à les réconcilier provisoirement et peu après naît leur deuxième fille. Mais rien n'est réglé. Il semble que suite à sa rencontre en 1151 avec Henri de Plantagenet, Aliénor obtienne la dissolution de son mariage en évoquant le prétexte de consanguinité avec Louis VII. En réalité, c'est elle qui répudie son mari et non l'inverse. Le 18 mai 1152, 8 semaines après l'annulation de son premier mariage, Aliénor épouse Henri de Plantagenet, de 10 ans son cadet. En 1154, deux ans après, ils sont couronnés rois et reines d'Angleterre, donnant à la couronne anglaise la moitié de la France, aggravant le déséquilibre politique sur le continent en faveur de l'Angleterre. Pendant 13 ans, Aliénor a 8 enfants avec Henri II, 3 filles et 5 fils, dont les futurs Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. Elle se voit alors écartée des affaires publiques, reléguée au rang de mère de famille avec ses 8 enfants. Mais Aliénor, en tant que reine d'Angleterre, tout comme reine de France, initiée qu'elle était par la croisade aux splendeurs orientales, savait s'entourer d'une cour fastueuse, cultivée, raffinée. Elle aimait les artistes, favorisait l'expression poétique des troubadours de Languedoc, notamment tel Bernard de Ventadour, troubadour limousin, qui vécut à la cour d'Aliénor pour laquelle il composa bon nombre de ses chansons. Persuadé que, je le cite, « le chant qui ne vient pas du cœur n'a pas de valeur », il sut allier dans ses poèmes la virtuosité formelle à la sincérité du sentiment. Alors là aussi, un mot sur la littérature courtoise. L'aristocratie de l'époque a évolué vers des mœurs moins rudes que celles décrites dans les chansons de gestes, telle la chanson de Roland, la plus connue en tout cas en ce qui concerne le titre, privilégiant les sentiments de générosité et de politesse imposés par les dames de la cour. La littérature courtoise, c'est-à-dire destinée à un public choisi, celui des gens de la cour du roi, de la cour de la reine, est influencée par 3 courants artistiques, antique, celtique et provençal. En 1165, une de ses œuvres de roman antique intitulée « Roman de Troie », qui comprend pas moins de 30 000 vers, est écrite par un protégé d'Aliénor d'Aquitaine, Benoît de Sainte-Maure, M-A-U-R-E. Outre les scènes de bataille et d'exploits chevaleresques héritées des chansons de gestes, ses œuvres font une grande place aux aventures romanesques, aux intrigues amoureuses, à la peinture de la vie contemporaine, telle la description détaillée des vêtements de la dernière mode. De 1167 à 1173, Aliénor exerce le pouvoir parce que le roi s'en retire volontairement. Elle prend alors des décisions importantes. Elle jette les bases d'un droit maritime, à l'origine du droit maritime moderne, passe des accords commerciaux avec Constantinople et les ports des Terres Saintes, modernise la ville de Poitiers, etc. Mais parallèlement, pour se venger de l'infidélité constante de son époux, elle manipule ses fils, Richard, Geoffroy et Henri le Jeune, contre leur père. Celui-ci, informé de ce complot, l'a fait enlever et emprisonner pendant presque 15 ans à Chinon d'abord, puis à Salisbury. En juillet 1189, à la mort d'Henri II, elle est libérée par son fils Richard Cœur de Lion et jusqu'en 1191, elle gouverne l'Angleterre, dont notamment les terres continentales des Plantagenêts en France, au nom de Richard, parti pour la troisième croisade. Quand Richard est fait prisonnier par l'empereur d'Autriche Henri VI, le fils de l'empereur allemand Frédéric Barberousse, Aliénor réunit l'énorme rançon exigée et la porte elle-même à Mayence à Henri VI pour délivrer son fils. Elle se retire alors à l'abbaye de Fontevraud. Mais lorsque Richard Cœur de Lion meurt en 1199, elle prend à nouveau la direction des opérations pour la succession en faveur de son autre fils, Jean Santerre. Elle meurt le 31 mars 1204 à Poitiers, à plus de 80 ans. Son tombeau est, avec ceux des Plantagenêts, à l'abbaye de Fontevraud, dans le Maine-et-Loire, près de Saumur, une magnifique architecture romane à voir et à visiter. Alors en conclusion, on nous dirons que figure lumineuse du XIIe siècle, femme politique d'une grande finesse, mécène férue de littérature, peu de reines ont laissé à ce point une empreinte dans l'histoire. Duchesse d'Aquitaine, puis 2 fois reine, de France pendant 14 ans, d'Angleterre pendant 34 ans, Aliénor d'Aquitaine ne fut pas une épouse soumise. Au contraire, douée d'une volonté de faire, et tout en assurant la pénibilité de donner naissance à 10 enfants, avec une vitalité hors du commun, elle travailla sans cesse aux affaires de l'État, la France et l'Angleterre, jusqu'à la fin de sa vie ambitieuse. En cela, elle est bien une femme exceptionnelle de notre matrimoine. Une citation peut-être ? « Mon nom est un monde, et personne n'y laisse son empreinte, ni Dieu, ni roi. Cette citation extraite du livre de Clara Dupont-Monod de 2014, intitulée « Le roi disait que j'étais diable », manifeste bien la soif d'indépendance et la volonté, la liberté d'action d'Aliénor d'Aquitaine.
Merci Jacqueline. Vous citez vos sources, bien sûr.
Oui, les sources principales, l'article de Anne Godard, Aliénor l'Indomptable, dans Clara Magazine, journal numéro 146 de novembre-décembre 2014, l'exposition du journal Clara Magazine, Notre Matrimoine, panneau numéro 4, 2019, le livre de Jacques Le Goff, La civilisation de l'Occident médiéval, collection Les Grandes Civilisations, édition Artaud 1964, et Le Moyen-Âge, collection littéraire Lagarde et Michard, édition Bordas 1963.
Jacqueline Ingrave, merci. On se retrouve mardi prochain, 9h15, sur Fréquence Mistral Digne.
Oui, et mardi prochain.
Voilà, et je rappelle qu'il y a toujours la rediffusion le mardi, le même mardi à 16h sur 99.3 et le jeudi à 17h. Bonne journée à tous. Au revoir.